Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Caribou, Le Libraire et Continuité. Au programme, Hallucinant nos champignons. Nos suggestions de lecture, nouvelles, théâtre, romans. Et art autochtone en action. Bonne écoute.
Hallucinant, nos champignons. Un texte de Marie-Lise Rousseau, paru le 30 mai 2023 dans la revue Caribou. Bien qu'on recense plus de 150 variétés de champignons comestibles au Québec, cet ingrédient polyvalent n'a jamais fait partie intégrante de notre culture culinaire. C'est appelé à changer grâce au développement de la gastronomie locale, de la trufficulture et du mycotourisme. De quoi nous faire halluciner sans champignons magiques? D'abord, un peu d'histoire. Les peuples autochtones consommaient bel et bien les champignons par nécessité, mais les fungus ne faisaient pas partie de leur alimentation de base. Ils étaient surtout reconnus pour leurs vertus thérapeutiques et mystiques, a expliqué le spécialiste en stratégie d'affaires agroalimentaire d'École B, un cabinet conseil de marketing agroalimentaire, Alexander Cruz, lors d'une journée de conférence sur la mycologie au plus récent congrès de l'ACFAS. Les choses n'ont pas changé avec l'arrivée des premiers Français, pour qui cet aliment était un symbole de pauvreté. C'était humiliant de manger des champignons, c'était comme fouiller dans les poubelles, illustre Alexander Cruz. À cela s'ajoutaient les croyances religieuses de l'époque associant les champignons à la sorcellerie et au diable. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que la gastronomie française en plein essor l'incorpora dans des plats désormais classiques comme la blanquette de veau. Si la conquête britannique a permis de valoriser davantage des champignons sur notre territoire, notamment comme ingrédients dans les ragoûts et les ketchups, c'est surtout aux communautés immigrantes qu'on doit leur arriver dans nos assiettes. Alexander Cruz cite en exemple les Polonais, les Italiens et les Ukrainiens qui se sont installés en Abitibi au début du XXe siècle, qui cuisinaient des plats de poisson et de huska, qui sont des pierogis aux champignons sauvages. Ça a donné lieu à des échanges culturels riches. De la forêt à la table. Longtemps boudé, le champignon sauvage reprend lentement ses lettres de noblesse grâce aux chefs d'ici, qui œuvrent de plus en plus à développer une gastronomie du terroir mettant en valeur les ingrédients locaux. Depuis quelques décennies, le peuple québécois cherche à définir son identité par sa culture culinaire, mentionne le professeur-chercheur au Gastronomie QC Lab de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, Alain Girard. La curiosité grandissante des Québécois jumelée à leur préoccupation pour l'achat local ne fait qu'accentuer cette tendance, ajoute-t-il. C'est un produit d'exception emblématique de notre forêt nordique, donc emblématique de notre identité québécoise. C'est une expérience géographique, sociale, culturelle et sensorielle du lieu, dit-il. Le champignon est ainsi appelé à devenir un ambassadeur culinaire auprès des touristes en visite dans la belle province qui cherchent eux aussi une expérience authentique et de terroir. De nombreux restaurateurs redoublent de créativité quand vient le temps d'apprêter les champignons forestiers, concoctant toutes sortes de plats et même des desserts aux champignons forestiers. Par ici les truffes. L'engouement pour les champignons se manifeste aussi par la trufficulture. Produit de luxe, véritable bijou de la forêt, on découvre et cultive de plus en plus de variétés de ces champignons souterrains au Québec, ce qui permet à des producteurs d'ici de se lancer dans cette aventure. Le contexte est favorable au développement de cette culture au Québec, notamment à cause des changements climatiques. En effet, les sécheresses ont provoqué un déclin majeur de la trufficulture en Europe. Cela dit, il faudra être patient avant de déguster des truffes québécoises. Il faut compter de 7 à 10 ans avant une première récolte, et cette culture émergente n'a commencé ici qu'en 2020. Selon Truffes Québec, on compte actuellement plus de 55 producteurs de truffes au Québec. L'arrivée des truffes fraîches, ça s'en vient, s'enthousiasme la présidente et copropriétaire de cette entreprise qui accompagne les producteurs dans l'installation de truffières, Maude Lemire-Comeau. Vers la route des champignons? Tout ça ouvre l'appétit. Ça tombe bien. De plus en plus d'initiatives de mycotourisme s'affairent à nourrir notre pensée et notre esprit en proposant une multitude d'activités comme de l'autocueillette, des ateliers culinaires, des sentiers de découverte ou encore des dégustations en forêt. Kamouraska et la Mauricie sont des pionniers en la matière. En plus de proposer un passeport mycologique, la municipalité du bas du fleuve a même son festival annuel des champignons forestiers, qui en sera à sa 3e édition en septembre prochain. En plus d'avoir développé sa filière mycologique, la région administrative de la Mauricie a lancé un programme éducatif sur les champignons forestiers, ainsi qu'un réseau de contacts entre cueilleurs et restaurateurs. Les représentants de ces initiatives souhaitent les voir se multiplier comme des champignons ailleurs au Québec. Après la route des microbrasseries et des fromages québécois, pourquoi pas une route des champignons? L'économiste et professeur au département de loisirs, culture et tourisme à l'Université du Québec à Trois-Rivières, François de Grandpré, entrevoit un avenir prometteur pour cette forme de tourisme. Mais on n'est pas rendu là. Nuance-t-il. Quelques restaurateurs férus de champignons. Dominique Lapointe du Castel à Trois-Rivières. Sa mousse à l'érable infusée au chaga lui a valu grand les honneurs au concours Mico 2022 qui invitait des chefs à créer des desserts aux champignons sauvages. Isabelle Dupuis du presbytère à Saint-Stanislas-de-Champlain. Elle apprête des champignons forestiers de multiples façons, mais c'est sa panna cotta au bollet à pied cru qui nous met l'eau à la bouche. Kim Côté et Perle Morancy du côté est à Kamouraska. En plus de concocter un festin mycologique dans le cadre du Festival des champignons forestiers, le resto offre des excursions gourmandes en plein air. C'était hallucinant, nos champignons. Un texte de Marie-Lise Rousseau, paru le 30 mai 2023 dans la revue Caribou.
Nos suggestions de lecture, nouvelles, théâtre, romans. Des suggestions de lecture des libraires indépendants proposées le 3 juin 2022 dans le carnet Julie Autochtone, une initiative de la revue Les Libraires. L'amour au temps d'après. Collectif. Direction Joshua Whitehead. Traduction Sophie Voyot. Alto. Sous la direction de Joshua Whitehead, nous retrouvons 9 auteurs et autrices des Premières Nations offrant des récits sous l'angle de la science-fiction. Des nouvelles à la fois queer et utopiques, des nouvelles d'où émerge la beauté, la solitude, la dangerosité, la majesté d'être bispirituel et provenant de diverses nations autochtones. Une suggestion de l'équipe de la rédaction. Le Wild West Show de Gabriel Dumont. Collectif. Prise de parole. Œuvre dramatique joyeusement anachronique, cette pièce multilingue coécrite par 10 auteurs et autrices autochtones et allochtones donne vie au vieux rêve de Dumont. Racontée, dans un spectacle à grand déploiement, la lutte des Métis pour la reconnaissance de leurs droits, en mettant en scène les événements qui ont mené à la résistance du Nord-Ouest. Une suggestion de l'équipe de la rédaction. Aquarium, J.D. Kurtness, l'instant même. Une plume caustique, un regard acéré sur le monde, une ambiance de fin de monde et une baleine qui semble immortelle. Voilà ce que nous offre J.D. Kurtness dans ce roman magnifique. En s'attachant au pas d'une biologiste marine, elle entre dans un univers vivant et coloré alors qu'autour, la catastrophe se dessine, en équilibre entre le passé fertile et un avenir incertain. Une suggestion de l'instant même. C'était nos suggestions de lecture, nouvelles, théâtre, romans. Des suggestions de lecture des libraires indépendants proposées le 3 juin 2022 dans le carnet Julie Autochtone, une initiative de la revue Les Libraires.
Art autochtone en action. Un texte de Guy Sioui-Durand, paru à l'automne 2022 dans le magazine Continuité. Pour parler du traumatisme des pensionnats autochtones et contribuer à une guérison collective, plusieurs membres des Premières Nations s'expriment par l'art. Leurs œuvres forcent une connaissance vraie du drame qui s'est joué pendant des décennies et proposent une solution collective aux blessures qui en découlent. Dans la région de Québec se démarquent 3 interventions artistiques récentes tenues dans autant de lieux de mémoire. Disparition organisée du mode de vie. La formule « tuer l'Indien dans l'enfant » condense l'essence de l'acculturation et de l'assimilation qui a marqué plusieurs générations de jeunes Inuits, métis et membres des Premières Nations. L'organisation des pensionnats autochtones est venue compléter le plan politique visant la disparition du mode de vie autochtone au Canada. Créés à partir de 1849, les pensionnats ont cessé leurs activités en 1991, avec une intense période moderne après la Seconde Guerre mondiale. Mais ce mode d'éducation, qui implique le retrait des enfants de leur communauté, a laissé des séquelles chez une multitude d'ex-pensionnaires autochtones et chez leurs proches. Pour que les feux médiatiques éclairent ce côté sombre des relations entre autochtones et allochtones, il aura fallu des années de dénonciations et de rapports d'enquête, dont la Commission de vérité et réconciliation du Canada, de 2008 à 2015, qui reste une référence pour comprendre la situation. Il aura surtout fallu, encore plus récemment, les découvertes choquantes de sépultures anonymes, dont celle de Kamloops en Colombie-Britannique en mai 2021, ainsi que la visite historique du pape François en août 2022. L'essentiel apport des artistes autochtones. Bien qu'eux-mêmes acculturés au pensionnat ou ayant des parents qui l'ont été, des artistes autochtones de partout au Canada ont émergé de la phase moderne des écoles résidentielles. Ils se sont réappropriés leur savoir confisqué et consigné en objet d'étude. Ils ont ainsi pu mettre en branle l'actuel processus de décolonisation, en plus d'amorcer, par leurs œuvres, la guérison communautaire. Parmi les précurseurs de ce mouvement, on peut penser à la cinéaste abénaquise Alanis Obomsawin, dont le documentaire Christmas at Moose Factory en 1971 démontre l'espoir que portent les dessins des enfants autochtones de l'internat, et au dramaturge cri Thompson Highway, dont le roman Champion et Unimitu, en 1998, devenu plus tard une pièce de théâtre, fait vivre l'effacement des traditions, les brisures intergénérationnelles, la séparation des familles et les destins individuels urbains post-pensionnat. Toutefois, ce n'est qu'après la publication du rapport de la Commission de vérité et réconciliation en 2015 que la contribution artistique va s'imposer. Trois lieux patrimoniaux de la région de Québec liés à la genèse et à l'évolution de la stratégie des pensionnats ont récemment été investis par des œuvres contemporaines autochtones. Pour l'ère missionnaire, 1636-1920, l'anse des Stadaconea, maintenant le parc Cartier-Brébeuf, dans le quartier Limoilou. Pour la période moderne, 1920-1991, la pointe Kamishkwa-Wangashit, site de la maison des Jésuites de Sillery. Et pour la période actuelle de réconciliation, Chitanit, le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, sur la rive nord du Magdoquec, ou « chemin qui marche », soit le fleuve Saint-Laurent. Vous écoutez « Art autochtone en action », un texte de Guy Sioui-Durand, paru à l'automne 2022 dans le magazine « Continuité ». Art et performance à l'anse des Stadaconiens. Le prototype du pensionnat autochtone est expérimenté sur le territoire actuel de Québec dès les débuts de la colonie. De 1635 à 1643, les Jésuites dirigent sans succès le séminaire des Hurons à la mission Notre-Dame-des-Anges sur le site où logeaient anciennement les Stadaconea. Cette tentative inaugure l'ère des pensionnats missionnaires dont l'éducation religieuse sera la préoccupation première. Cette ère s'étire longuement de la période de la Nouvelle-France à celle des colonies britanniques et perdure pendant l'expansion de la Confédération du Canada. Mais les taux d'inscription à ces écoles résidentielles restent bas, et les élèves qui les fréquentent y sont mal préparés à la vie coloniale, en plus d'être déconnectés de celle traditionnelle qu'on mène dans leur communauté d'origine. Ce choc des visions spirituelles du monde a justement été au cœur de la manœuvre « Justice et réparation », un des volets du Rassemblement Internation d'Art Performance Autochtone tenu en septembre 2018 à l'anse des Stadaconea, aux confins de la rivière Akiawenrak, Saint-Charles. Cette série d'actions artistiques collectives in situ a rassemblé 30 artistes autochtones venus d'ouest en est du Canada. Entre autres, on a pu y entendre la poétesse Innu Joséphine Bacon, le dramaturge Wendat Yves Sioui-Durand et le peintre et critique métis David Garneau. Les harangues de dénonciation s'y sont mêlées au son des tambours et aux gestes artistiques de mémoire et de guérison. Ces performances ont résonné avec d'autant plus de puissance qu'elles ont été réalisées sur le lieu même où s'est ancrée l'intention coloniale de conquête et de christianisation à la base de la stratégie des pensionnats. La période moderne, ses racines et une courte pointe. En 1920, un amendement à la loi sur les Indiens rend la scolarisation des enfants autochtones obligatoire, préparant une expansion des pensionnats. Des établissements ouvrent au Québec, calquant le modèle établi dans l'ouest du pays. Ainsi débute la période des pensionnats modernes, co-gérée par les clergés catholiques et anglicans. Entre 1950 et 1991, 139 pensionnats canadiens abritent 150 000 enfants autochtones, dont 6 000 n'en sont jamais revenus. Au Québec, 12 de ces établissements vont héberger 13 000 enfants en provenance de communautés d'Inuit, d'Iou, de Naskapi, d'Inou, d'Atikamekw et d'Algonquin. Cette période moderne puise sa source encore plus loin dans le temps, en particulier parce que la formule des pensionnats s'inscrit dans la même logique que celle de la réserve indienne. Des réserves semblables ont été établies au début du XVIIe siècle au Paraguay, là-bas appelées « Reducciones Guaraníes » ou « Misiones Jesuiticas ». Elles ont rapidement inspiré les jésuites de la Nouvelle-France. C'est ainsi que la première mission catholique du Nord est créée sur le territoire actuel de Québec en 1637, la mission Saint-Joseph. Celle-ci prend place autour de la pointe Kamiskwa-Wangashit, longtemps fréquentée de façon saisonnière par les Autochtones pour pêcher dans le fleuve et pour commercer. Les jésuites choisissent ce lieu pour installer leur mission, l'actuelle maison des jésuites de Sillery. Le modèle où des membres d'une nation autochtone sont sédentarisés et évangélisés inspirera ensuite les autorités canadiennes. Aujourd'hui, site patrimonial, le terrain comporte un cimetière aux croix de bois et une imposante maison. Il conserve l'aura de l'historique mission destinée à convertir les sauvages. De mai à décembre 2022, la vieille maison accueille l'exposition multiforme « Land Back » à l'occasion de la 6e Biennale d'art contemporain autochtone. Parmi ses œuvres, une vidéo frappante, « La couverture des témoins », signée « Ayalkin Jim », nom « Kwakwaka Walk » de Carrie Newman. La projection sur les murs de planches blancs montre une courte pointe visuelle, animé de compositions imagées géométriques aux couleurs sobres. On y voit divers agencements de 880 objets, photographies, portes, bâtons de hockey, vêtements, poupées, mèches de cheveux, notes de piano, etc., issus de 77 pensionnats et foyers autochtones de partout au Canada. L'intensité de cette collecte ethnographique comme devoir de mémoire collective engageant la vérité est aussi redevable du récit personnel de l'artiste, son père ayant vécu le pensionnat. La couverture des témoins est d'abord une sculpture-installation créée en 2015 et exposée au Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg. La vidéo en est la version nomade. Même si aucun lieu patrimonial de la région de Québec ne l'a encore accueilli, une autre manifestation artistique offre un écho puissant à la période moderne des pensionnats autochtones. L'exposition « Honte et préjugés », une histoire de résilience du peintre Kent Monkman. En particulier son œuvre forte, « Le cri ». Créé en 2017 en réaction au 150e anniversaire de la Confédération canadienne, s'y reflète de manière hyper réaliste l'horreur des séparations forcées des enfants autochtones et de leurs familles, perpétrées par la Gendarmerie royale du Canada et des religieux dans les réserves du centre et du nord du Canada, ainsi qu'en milieu urbain. Le cri évoque les brisures des relations familiales, dont la perte de leur langue par les jeunes qui ont ensuite de plus en plus de difficultés à communiquer avec leurs aînés. La composition de cette œuvre percutante permet d'anticiper les sévices qui suivront. Coupe des cheveux, interdiction de parler sa langue maternelle, châtiment corporel, abus sexuels, malnutrition et indifférence face aux décès prématurés. Qui plus est, l'artiste y remémore les larmes de sa propre mère, témoin des faits. Marcher ensemble au son des tambours. Nous sommes maintenant dans les années de décolonisation. Les demandes autochtones réitérées au Vatican par une délégation de représentants inuits, métis et des Premières Nations ont enfin obtenu réponse en juillet 2022. Il s'agit de l'historique pèlerinage pénitentiel du pape François dans les territoires autochtones pour participer spirituellement à la guérison communautaire des affres de la période moderne des pensionnats. Le chef de l'Église catholique a officié, écouté des survivants et fait réfléchir les ordres religieux et parlementaires. À Chétanit, Sainte-Anne-de-Beaupré, comme à Maskwacis, près d'Edmonton, et à Iqaluit, Nunavut, où le pape a posé le pied, les rythmes des tambours traditionnels ont résonné. Ils ont fait écho au nécessaire apaisement des malheurs des pensionnats en célébrant cette koukoum, grand-mère, qu'est Anne, mère de Marie. Une figure vénérée par les deux mondes autochtones et chrétiens. Quelle que soit la façon dont ils s'expriment, les rêves des artistes autochtones confrontent l'histoire des pensionnats afin de briser le cycle des traumatismes. Ils permettent de changer notre monde par l'art. Et l'art par l'art autochtone, tout un héritage à transmettre aux nouvelles générations. C'était « Art autochtone en action », un texte de Guy Sioui-Durand, paru à l'automne 2022 dans le magazine Continuité.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.mcvoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et André Lebeau à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.